Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Aujourd'hui, nous allons écouter le premier épisode de la série « Raconte ta Loire » de Quentin Bleuzen. Épisode 1, l'ornithologue.
Raconte ta Loire, une série enregistrée entre les mois de juin et juillet 2021, qui raconte les personnages qui font la Loire d'aujourd'hui, d'hier et de demain, de Nantes à Saint-Nazaire. Premier épisode, l'ornithologue.
Je m'appelle Hubert Duguay, je suis ornithologue et je travaille au sein d'une association qui s'appelle l'ACRLA, Association pour la connaissance et la recherche ornithologique Loire et Atlantique. L'ACRLA est un sigle qui est aussi le nom de code d'un petit oiseau, d'un petit passereau qui est le plus en danger de disparition en Europe aujourd'hui. Il n'en reste presque plus, c'est l'emblème de notre association et on travaille avec bien d'autres pour essayer de comprendre ses exigences et mettre en œuvre des mesures qui permettent d'enrayer son déclin. Alors ici, nous sommes sur les bords de Loire, dans les terrains du Grand Port Maritime, qui nous a mis en gestion deux zones qui nous permettent de mener des recherches sur la biologie des populations d'oiseaux. Alors nous sommes situés sur la commune de Donge, entre Donge et Lavaux, sur les bords de Loire, en plein dans la zone de marais de bord de Loire. Alors on a deux zones, une de 55 hectares et une de 5 hectares, qui nous permet d'étudier des populations d'oiseaux différentes. Sur ce premier secteur, c'est un programme qui s'appelle STOCK, suivi temporel des oiseaux communs. C'est un petit peu de connaître quelles sont les évolutions à travers le temps des populations d'oiseaux dits communs de nos jardins, mésanges, rouge-gorge, merles, etc. Et de voir, donc de répéter chaque année, au même moment, avec les mêmes conditions, les mêmes protocoles, pour voir comment ces populations évoluent, et entre autres face au réchauffement climatique. Et puis on a une deuxième zone, là, qui est complètement sur le bord de Loire, où nous étudions ce qu'on appelle les passereaux paludicoles. Ce sont des oiseaux qui vivent, des petits oiseaux de 9, 10 grammes, 12 grammes, qui vivent exclusivement dans la roselière. Alors ça va faire 35 ans qu'on fait ça. L'association, alors on a existé sous plusieurs noms et aujourd'hui donc ACRLA existe officiellement depuis 2006. Nous étudions ces oiseaux-là depuis 1994 maintenant. Donc on a un bon recul. Nous sommes une des plus grosses stations françaises et nous avons bagué par exemple ici en bordure de Loire presque 250 000 oiseaux puisque notre cœur de métier c'est le bagage, on capture des oiseaux pour les marquer, pour les baguer, pour savoir d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils font, voilà, et tout un tas de paramètres, et donc c'est ça notre cœur de métier. Alors, ces passereaux paludicoles qui vivent dans les roselières, ce sont des espèces qui sont en net déclin, mais comme beaucoup d'autres maintenant. Ce sont des oiseaux strictement insectivores, c'est là l'intérêt. Ce sont des oiseaux qui vivent dans tout le nord et l'est de l'Europe et qui vont, à partir de... certains de ces espèces se reproduisent ici, chez nous, mais la plupart vont transiter par chez nous en été, pour refaire le plein d'énergie avant de continuer leur voyage. Ils ont déjà fait 2000-3000 km en arrivant ici en estuaire de la Loire et ils vont filer vers l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des oiseaux strictement insectivores et donc comme il n'y a pas ou quasiment pas d'insectes en hiver en Europe de l'Ouest, et ces oiseaux donc sont des grands migrateurs. Donc des tout petits oiseaux, grands migrateurs, en gros c'est 10 grammes pour 10 000 km. Donc c'est des prouesses extraordinaires. Et c'est une partie de nos recherches qui nous passionne depuis très longtemps. Et puis malheureusement, comme on a une nette diminution des insectes, eh bien ces oiseaux-là en pâtissent. Et donc les populations baissent et nous étudions ces phénomènes. Alors, en règle générale, à part quelques espèces qui se portent pas trop mal, on est sur un déclin relativement important, hein, qui est de l'ordre de moins 20 à moins 80% sur certaines espèces. D'où un certain nombre de cris d'alarme, hein, des scientifiques mondiaux, français entre autres. Hein, nous travaillons sous l'égide du muséum et on n'arrête pas de dire qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre des politiques qui permettent de sauvegarder les habitats, les milieux et donc de favoriser la survie de ces espèces. Alors aujourd'hui, bien évidemment, c'est s'interdire de modifier, d'impacter les zones humides. Les zones humides ont disparu, Les zones humides ont régressé de 50 à 70% depuis 1970. Donc aujourd'hui, c'est faire attention à ne plus impacter ces zones-là. Et puis, bien évidemment, c'est faire attention à tous les polluants, les rejets, faire attention au niveau de l'agriculture. Hein. Ici, on est en bordure de Loire, sur une agriculture extensive, prairies d'élevage, prairies de fauche, qui gardent toute leur richesse, toute leur biodiversité. C'est tout l'intérêt de voir qu'il existe encore ces havres de nature, hein, très très préservés, où il y a une biodiversité assez remarquable. C'est l'agriculteur. Alors un autre programme de recherche qui nous occupe pas mal de fin d'hiver jusqu'à maintenant, hein, c'est le programme de suivi de la population de cigogne blanche à travers le département et alentour. Donc la cigogne blanche, une espèce qui a failli disparaître dans les années 70, hein, il restait environ 10 couples en France, et puis il y a eu le renouveau à partir du début des années 90. Le premier couple de cigogne en Loire-Atlantique à revenir, c'était 1989. Aujourd'hui, le comptage qu'on vient de terminer, le recensement, on est aux alentours de 270 couples. Donc la population de cigogne, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur les passereaux, se porte bien. Elle se porte bien principalement grâce ou à cause, je ne sais pas comment il faut le dire, d'une espèce invasive qui n'a rien à faire chez nous, mais qui est aujourd'hui la ressource alimentaire principale de la cigogne, c'est l'écrevisse américaine, l'écrevisse de Louisiane qui pullule dans les marais. Et c'est grâce à cette espèce invasive que la cigogne se portait bien, puisqu'elle trouve dans des conditions extrêmement faciles de pêche de quoi se nourrir et de nourrir ses jeunes. Alors l'écrevisse a été importée par l'homme, hein, pour faire des élevages et elle s'est échappée de captivité et aujourd'hui elle pullule dans tous les marais, hein, pas qu'en Loire-Atlantique, hein, partout en France, elle s'est mise à pulluler et donc effectivement les grands échassiers dont la cigogne profitent de cette manne tout à fait importante et facile de pêche. Un autre thème que nous avons lancé cette année et qui nous inquiète énormément, c'est la diminution drastique des hirondelles. Et pour essayer de faire le point, donc, au niveau national, on dit que nous sommes aux alentours de moins 40% sur les hirondelles. Et donc nous avons lancé un projet de science participative au niveau du département de Loire-Atlantique où on demande à chaque personne qui a chez elle ou qui connaît un endroit où il y a un nid, deux nids, dix nids, de nous l'indiquer. Hein, à travers un site en trois clics, c'est extrêmement facile. C'est www.obsclic-acrola.fr. Et là, vous pouvez renseigner j'ai un nid, j'ai trois nids de telle hirondelle, etc. etc. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une idée assez précise de la situation pour nous en Loire-Atlantique par rapport à la situation française. Mais malheureusement, les premiers constats, les premiers résultats montrent que nous sommes sur le même déclin. Donc là encore, hein, une espèce, les hirondelles, des oiseaux totalement insectivores et qui subissent, hein, la baisse importante des insectes dans la nature. Bien évidemment, c'est tous les produits phytosanitaires, entre autres, hein, qui sont pulvérisés et qui vont altérer donc la dynamique de population de tous ces insectes. C'est assez simple, hein. Alors il n'y a pas que ça, mais c'est une cause sans doute importante. C'est assez simple. Aujourd'hui, il y a 20 ans, vous faisiez 100 km en voiture, votre pare-brise il était couvert d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez faire 1000 km, il faut traverser la France, vous avez 3 impacts d'insectes sur votre voiture. Les insectes, donc c'est un maillon important de la chaîne alimentaire, entre autres pour les oiseaux. Et malheureusement, ils sont dans très très nette régression. D'où la diminution derrière de toutes les espèces qui sont insectivores. Les bords de Loire sont des très belles zones d'alimentation, mais pas de reproduction. Alors, elles viennent se nourrir, mais il n'y a pas d'habitat. On est sur de la prairie. Les hirondelles, elles ont besoin d'un hangar, d'une ferme, d'un corps de bâtiment pour pouvoir fabriquer leur nid. Alors, il y a une autre raison de la diminution des hirondelles, c'était la rénovation depuis une trentaine d'années de tous les bâtiments anciens. Tant mieux, hein, on a restauré l'habitat, mais souvent au détriment. Hein, on a empêché les hirondelles de rentrer dans la grange, dans la vieille ferme, etc. Et donc, elles ont de plus en plus de mal à trouver aussi un support de nid favorable. La disparition des espèces, quelles qu'elles soient, est un problème puisque elle finira par affecter l'humain, hein, bien évidemment. Alors des espèces, aujourd'hui, on dit que nous sommes entrés dans la sixième extinction, extinction de masse. Je crois qu'à l'échelle mondiale, hein, nous perdons une espèce toutes les 10 minutes. Alors tout ça, effectivement, ça fait partie de grands ensembles des écosystèmes et tout fonctionne normalement relativement bien. Donc une espèce est importante parce qu'elle va manger telle chose et telle chose, et donc ça va empêcher les proliférations, les maladies, etc. Donc c'est extrêmement important d'essayer de sauvegarder le maximum d'espèces. Elles ont tout un rôle dans la nature. Et donc, même si on ne les connaît pas bien aujourd'hui, c'est ce qu'on étudie, hein, c'est une partie de ce qu'on étudie. Mais il est important que tout le monde puisse trouver sa place. Et normalement, dans un système qui fonctionne bien, tous les animaux ont leur place.
Et vous avez sûrement dû entendre parler d'un projet de parc écotechnologique du Carnet dans le sud de Loire. Alors je sais pas si, donc ça c'est pas votre territoire, mais je sais pas si vous avez entendu parler, si vous en pensez quelque chose.
Alors là je vais avoir beaucoup de mal à répondre parce que je ne connais que les contours. Je ne connais pas les détails, donc c'est difficile pour moi. Il me semblait que c'était pas une mauvaise idée. Maintenant, donc il y avait une partie industrialisée et une partie qui était vouée à la nature. Maintenant, je connais pas le dossier. C'est en Sud-Loire. On a déjà suffisamment de travail ici. Je peux pas me prononcer complètement ne connaissant pas le dossier.
D'accord. Et je me demandais parce que le nord de la Loire, là, avec Donge, Saint-Nazaire, c'est quand même bien industrialisé. Et est-ce que cette industrie peut avoir un impact quelconque sur la population des oiseaux ou sur les oiseaux ?
Alors, je dirais, ça s'est déjà fait. Aujourd'hui, le milieu, il est entre guillemets, il est figé, c'est pas vrai, parce qu'on est sur des milieux dynamiques, vivants, donc qui bougent. Mais je dirais, toute l'artificialisation du milieu qui a été faite à partir des années 70, on a agrandi le port, on a agrandi, on a créé des industries, on a créé, etc., sur les bords de Loire, principalement entre Saint-Nazaire et Donge. J'ai connu ça il y a 35 ans ou 40 ans, effectivement, il y avait des milieux naturels encore assez remarquables. Aujourd'hui, on n'a que de l'industrie. Mais je dirais, pour le reste, on a eu des interventions aujourd'hui. On a, je dirais, on voit là, hein, de la raffinerie de Donge jusqu'à la centrale de Cordemais et ensuite jusqu'à Couëron. En Nord-Loire, on a des milieux relativement magnifiques. Encore des joyaux de biodiversité, et je pense que ça bougera pas, ça sera les aléas des changements climatiques futurs qui bougeront ces choses-là, mais aujourd'hui toutes ces zones sont à vocation naturelle. En plus, on a une grande partie aujourd'hui qui est propriété du Conservatoire du Littoral, géré par le département. Et donc, tous ces terrains, aujourd'hui, ils sont inaliénables. Donc, ça ne bougera pas. On pourra que les conserver dans l'état, comme ils sont. Je dirais. Ils ne seront pas altérés par des projets industriels ou autres.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, quand la centrale de pétrolière de Donges s'arrête pendant longtemps, comme c'est le cas en ce moment, est-ce que ça, vous voyez une évolution sur les populations d'oiseaux ou quelconque ?
Non, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer comme ça. Est-ce qu'il y a un impact ? Honnêtement, je ne pense pas. Mais c'est très, très compliqué. C'est pas... On n'a pas, pas de pollution, je veux dire, on n'a pas d'impact direct sur les oiseaux. Les oiseaux, ils vivent là autour depuis très longtemps. Le site de Donges-Est, hein, où on travaille, qui est vraiment au pied de la raffinerie, on a jamais connu de soucis majeurs. Donc c'est très difficile de dire... Parce qu'on a un arrêt forcé à l'heure actuelle que ça change quelque chose. Je ne crois pas.
D'accord. Et est-ce que, pour terminer, si vous voyez un idéal de votre estuaire ou dans l'avenir, comment il devrait évoluer selon vous ? Qu'est-ce qui devrait changer ou pas changer ? À quoi vous pensez comme ça ?
Alors, ça c'est compliqué. je le disais tout de suite, hein, l'estuaire va évoluer lié aux changements globaux, aux changements climatiques. Si le niveau de la mer augmente, comme on nous le dit, et malheureusement je le crois, ça va impacter tous les milieux. Des milieux aujourd'hui faiblement en eau vont avoir plus d'eau. On va avoir une pénétration plus importante, ce qui est déjà le cas, ça commence, d'eau plus salée dans l'estuaire. Donc des changements, il y en aura. Comment la nature va s'adapter, c'est vraiment très tôt pour faire de la prospective à ce point-là. Mais il se passera quand même quelque chose, même si les milieux se modifient. Ça sera encore des milieux donc différents, mais qui abriteront des oiseaux sans doute en grande importance. Différents peut-être, parce que les milieux auront changé. Alors maintenant, le milieu idéal, l'estuaire idéal, c'est un estuaire qu'on ne va plus artificialiser. C'est un estuaire qu'on va essayer avec des pratiques compatibles, comme l'agriculture extensive, hein, de conserver des milieux en bonne santé, qui seront le gage d'une biodiversité très importante.
D'accord, et merci bien.
Vous venez d'écouter Raconte ta Loire de Quentin Bluzen, épisode 1, l'ornithologue. Vous pouvez réécouter cette émission sur jetfm.fr. Tout de suite après, retrouvez l'émission Chemin d'Afrique par Calomé.